C'est une sorte de madeleine pour nous. On l'associe à l'été, vous savez, à la nature, au ciel dégagé du passé. Comme une vibration de l'enfance qu'on n'entend plus qu'en rêve et qui s'éloigne de plus en plus. Ce léger vrombissement, c'est le bourdonnement de l'abeille. L'abeille qui est en train de disparaître, on le sait, sous le coup de parasites, de pesticides, de prédateurs, de traitements phytosanitaires. L'abeille est si nécessaire à la biodiversité qui connaît depuis 30 ans un déclin sans précédent. L'abeille qui nous garantit pourtant nature, nourriture et argent depuis si longtemps. Vous le savez, dès l'Antiquité, elle a quelque chose à voir avec le divin. Du côté d'Artémis et de Déméter, dont les prêtresses portait le nom d'abeille, de mélissaille ou de miel, abeille virginale, purifiante, nourricière, dont le nectar est un don des dieux. On le trouve dans l'Iliade, au creux de cratères et d'amphores de pierre, dans l'antre des nymphes à Ithaque. Parce qu'elles font la nourriture des dieux, ces abeilles qui sont en train de disparaître sous le coup de parasites, de pesticides, de prédateurs, de traitements phytosanitaires. Elles sont en train de disparaître comme cette vibration d'enfance, ce bourdonnement, ce léger vrombissement qui s'affaiblit à mesure que l'on grandit. Ça peut sembler étrange que nos enfants ne puissent même pas en faire une madeleine. En réalité, c'est beaucoup plus grave. C'est un sacrilège.
Boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang, qu'a vu disparaître mon invité d'aujourd'hui, lui, dont la vie, comme les textes, sont bien souvent une immersion dans la nature, l'ailleurs, loin des hommes et le long de si nombreux chemins de traverse, y compris littéraires. Son dernier livre, Une très légère oscillation, vient de paraître en poche et son été avec Homer a rencontré tous les succès. Bonjour Sylvain Tesson.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être là. Avant toute chose, un mot peut-être sur ce que j'abordais en introduction et que vous évoquez dans Une très légère oscillation avec les animaux, quels qu'ils soient, même si je parlais d'abeilles. Qu'est-ce qui disparaît avec les animaux pour vous, en réalité?
J'ai l'impression que c'est le monde qui recule, c'est le réel qui se retire. La seule chose qui progresse, qui propage et qui va très bien, c'est l'homme. On a l'impression du contraire d'ailleurs, parce que évidemment nous sommes confrontés à tous les tourments que nous nous infligeons les uns les autres. Les sociétés s'infligent un grand nombre de tourments, mais si on prend l'homme comme espèce, il va très très bien.
Et à vous lire, Sylvain Tesson, j'ai l'impression que ce qui disparaît avec les animaux, c'est aussi quelque chose de l'ordre du sacré, en fait. Qu'est-ce que c'est pour vous, un animal, une bête?
La rencontre avec un animal, pour moi, c'est une jouvence, c'est un symbole, c'est un moment qui peut illuminer une journée. C'est très important. Moi, je trouve que nous sommes là... Nous sommes des parvenus de l'évolution darwinienne. Nous autres, les hommes, on est arrivés il n'y a pas très longtemps. On est un peu comme les nouveaux riches qui débarquent comme ça dans la soirée. On dit « Oh, tout est à moi maintenant ». Et nous méconsidérons ce qui fait l'extraordinaire. C'est un mot un peu compliqué, mais que j'aime beaucoup. L'héraldique, ces blasons. Vous savez, c'est la science des blasons, de la compréhension des blasons, avec tous ces symboles iconographiques qui représentent des modalités de la vie. Eh bien, pour moi, c'est ça, les animaux. Ce sont des incarnations de symboles. Un oiseau, une bête, un poisson, un insecte, ce sont des joyaux qui sont inscrits sur le manteau du monde. Et quand tout ça disparaît, je trouve que la vie perd une part de son intérêt.
À quelle disparition est-ce que vous avez assisté?
Moi, je me contente de lire la presse. Il y a des rapports qui paraissent régulièrement pour expliquer que des espèces se retirent, disparaissent. Enfin, je crois que en quelques décennies, les grandes révolutions industrielles ont orchestré alors, je connais pas les chiffres, je les retiens jamais, je comprends rien aux statistiques.
Ça tombe mal, j'allais vous les demander.
Mais alors, c'est catastrophique, c'est des trucs de l'ordre de, je sais pas quoi, la moitié des espèces vertébrées de tel écosystème disparaissent. Enfin, les dieux se retirent, voilà, c'est ça que je veux dire. L'homme se propage, l'ombre gagne, le béton se répand à la surface, et les dieux se retirent. Moi, c'est ça l'image que je porte en moi comme une douleur.
C'est une douleur, parce que c'est ça que j'allais vous demander. Qu'est-ce que ça provoque en vous? De la colère, parfois?
Non, plutôt une mélancolie. Une espèce de tristesse devant cet extraordinaire succès qu'une espèce a rencontré, qui est la nôtre, qui est l'espèce humaine, et qui est traversée d'ailleurs de moments miraculeux et merveilleux, bien sûr. Les arts, les quelques productions, quelques créations nous sauvent, mais tout ça s'accompagne d'un recul des autres êtres vivants avec qui nous coexistions.
Que faudrait-il faire? Quel sursaut intime, individuel, citoyen, vous par exemple?
Je sais pas. Je ne sais pas, je n'ai aucune idée de cela. Moi, je m'intéresse très très peu à toutes ces déploiements de conseils, de modalités, d'intervention
et en même temps,
de changement du comportement.
Heureux d'en parler à la radio. De la disparition des animaux.
Non, pas heureux, d'en parler.
Non, mais c'est quelque chose.
J'aimerais beaucoup mieux qu'on en parle à point, parce que ça voudrait dire que le drame n'existe pas. C'est quelque chose qui me terrifie, qui me rend triste. Oui, vous parliez des abeilles, bien entendu. C'est tout à fait banal de dire cela, mais on se souvient très bien des pique-niques que nous faisions et qui étaient perturbés par tout ce grouillement et qui n'existe plus. Mais alors, si l'objectif de notre installation sur la Terre et de vivre sur un gazon de golf débarrassé de toute présence d'animalcules, ben très bien, c'est formidable. Mais j'ai l'impression qu'on passerait à côté de quelque chose qui s'appelle l'efflorescence, qui s'appelle le divers, qui s'appelle la beauté de tout ce qui n'est pas soi, la beauté de tout ce qui n'est pas l'homme, tout ce qui n'est pas son propre reflet dans la glace de notre semblable. C'est ça qui m'intéresse chez l'animal, c'est l'étrangeté. Elle est là, l'altérité, la vraie altérité, puisqu'on ne cesse de parler de l'altérité, de l'autre, de la nécessité de sortir de soi-même. Eh bien, elle est là. Elle est dans le silence des bêtes, dans leur mystère, dans leur incapacité à se faire comprendre et dans cette souffrance incroyable que représente leur disparition devant notre succès. Et moi, ça me terrifie.
Depuis quand est-ce que vous défiez la société des hommes, Sylvain Tesson, telle qu'elle est aujourd'hui ?
Ben, moi, je la défie pas du tout. Je fais juste d'un autre mode d'action que le défi. Je m'en vais. Oui. C'est pas tout à fait pareil. Quand on est devant un problème, soit on l'affronte, soit on le contourne. Moi, je le contourne.
Vous êtes le roi des détours.
Oui, moi, je connais bien les manières de prendre la poudre d'escampette, toute cette possibilité de prendre l'issue de secours, l'escalier de service, le chemin de traverse. On peut énumérer comme ça. Il y a beaucoup d'expressions qui désignent ça, la voie qui vous permet de partir sur le côté.
Mais ça part toujours d'une difficulté à vivre en société, non ?
Ça part d'un immense intérêt que j'ai pour ce qui n'est pas moi-même. Le pays, c'est-à-dire pour ce qui n'est pas l'homme. Je m'intéresse au non-humain. Le paysage, les royaumes minéraux, les bêtes, je vous le disais à l'instant, tout ce qui appartient à des mondes qui échappent à ce que je suis, c'est-à-dire un homme.
Dans votre livre, Dans les forêts de Sibérie, vous écriviez « La difficulté de vivre en société, ça vient de cet impératif de trouver toujours quelque chose à dire ». C'est une formule que je trouve délicieuse.
Oui, bah, ça ressemble à notre exercice de questions et de réponses. C'est une conversation.
Quoi. Oui, mais lorsque vous êtes seul, loin de tout, avoir quelqu'un à qui parler, est-ce que ça vous manque ?
Non, parce que du coup, je parle beaucoup tout seul. C'est pour ça que j'ai fini par prendre la mauvaise habitude d'avoir l'impression, dès que j'ouvrais la bouche, que je ne serais jamais interrompu. Ce qui est très, très embêtant pour dans le cadre d'une émission radiophonique.
Oh, vous pouvez parler avec moi, vous savez.
Mon cheval ne m'interrompt jamais lorsque je traverse le désert de Gobi avec lui pendant 45 jours et que je me souviens, c'est le moment où j'ai le plus parlé tout seul. C'est quand j'étais
Attendez,
en Mongolie.
Si vous parlez à votre cheval, vous ne parlez pas tout seul.
Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il entendait que je... Oui, et puis nul ne sait ce que comprend le cheval du discours humain. Oui, peut-être entendait-il des choses.
Les humains, tiens, Sylvain Tesson, quel genre d'animaux sont-ils pour vous ?
Ils sont... si vous voulez connaître un être humain, enfin connaître l'humanité, vous avez qu'à vous regarder dans votre miroir. C'est ça que je crois, moi. Je crois que nous sommes assez semblables les uns aux autres, assez ordinaires. Et je crois que la prétendue complexité humaine, en fait, est peut-être réductible à un certain nombre de grands penchants qui sont toujours à peu près les mêmes chez votre voisin, chez vous-même, chez le papou, chez le groenlandais ou chez le limousin. Et je crois que tous ces invariants se répètent génération après génération depuis très longtemps. C'est la raison pour laquelle la lecture des grands textes comme l'Iliade ou l'Odyssée nous paraît si actuelle, parce que finalement rien n'a changé. Ce qui a changé, c'est la vêture, c'est l'environnement technique, c'est les options politiques, c'est l'organisation des sociétés. Ok, le décor a changé, la scénographie a changé, mais les invariants humains sont tellement les mêmes.
Les invariants, c'est bien, mais il y a toujours une multitude d'animaux. Vous, par exemple, quel genre d'animal est-ce que vous seriez ?
Ah oui, quel genre d'animal je serais? C'est comme dans le monde de Narnia de Lewis.
Quel chef-d'œuvre.
Qui était un
chef-d'œuvre. On ne mentionne jamais.
Et où il, oui, non, qu'on ne mentionne jamais parce qu'il est tout à fait éclipsé par son compagnon, son frère d'armes qui était Tolkien, mais où il attribue à chaque être humain un animal qui serait son espèce de Dasein, pour utiliser un terme de cuistre, enfin, c'est-à-dire
ou de blason, disons.
Oui, c'est ça, de blason.
Alors, quel serait le vôtre?
Ah, ça serait le calamar.
Ah, le calamar.
La sèche.
Et pourquoi diable?
Parce que un nuage d'encre pour vous enfumer et hop, on se retire à reculons. C'est ça que fait la sèche. C'est un animal totémique pour le bavardeur.
Je vous pensais beaucoup plus terre à terre. Un jour, vous m'aviez dit le blaireau. Ça m'avait surpris.
Oui, non, le blaireau, c'est pour des raisons sémantiques. Mon nom, Tesson, veut dire le blaireau en vieux français. C'est comme ça que la taxinomie a été forgée sur cette racine de taxos. C'est le blaireau. C'était un animal qui a été beaucoup décimé. Comment disent les hommes déjà? Des nuisibles. Il appartient aux nuisibles, le blaireau. C'est un animal qui est monogame et sédentaire. Tout moi.
C'est que moi j'ai beaucoup d'amitié pour les blaireaux, mon équipe peut en témoigner. Celle qui est moins blaireau que cabri dans cette émission, c'est la culture et son actualité qui sent le bouc et qui nous rend chèvre. Tiens, que se passe-t-il donc aujourd'hui, vendredi 19 octobre?
Il n'y a pas de grande architecture sans passion.
L'archi de l'intérieur, pour la troisième année consécutive, le ministère de la Culture organise dès aujourd'hui les Journées nationales de l'architecture. Au programme, plus de 1500 animations dans toute la France, notamment les portes ouvertes d'agences, des balades urbaines et des ateliers pour les enfants. À Nancy, par exemple, la grande halle de la Renaissance accueille l'expo Patrimoine et Architecture de la ruine au trésor. Monseigneur. Circa de force majeure, le Circa Festival du Cirque actuel installe pistes et chapiteaux à Auch dans le Gers, mêlant acrobatie, poésie, performance. La manifestation pluridisciplinaire propose pas moins de 32 spectacles à découvrir pendant 10 jours, notamment Hurt Me Tender, incroyable show aérien de la compagnie Cirque VOST. Parallèlement à ça, des scènes ouvertes partout dans la ville invitent amateurs et élèves en formation à tester leur numéro en public, tous en piste.
Tu nous manques tellement, Johnny. Tu savais.
Le temps il se lassera bien avant moi. Comment pas tu verras. C'est écrit sur ma peau, je suis made in rock and roll.
Rocker et record, c'est aujourd'hui que sort dans les bacs l'album posthume événement de Johnny Hallyday, disparu en décembre dernier, attendu comme le Graal par les fans et les autres aussi, titré Mon pays c'est l'amour. Le disque pourrait bien battre tous les records, tiré d'entrée à 800 000 copies. L'opus est déjà disque de platine avant même sa sortie, grâce à plus de 100 000 précommandes. Question musique, le taulier avait choisi de faire toute la musique qu'il aimait, du bon blues teinté de rock à cordes. Forever Johnny.
Ne pleurez pas, Larmina. Cherchez plutôt à qui profite le crime.
Un cognac et ça repart. La 23e édition du festival Polar s'installe à Cognac en Charente. Livres, BD, cinéma, théâtre et télé. La manifestation décline le genre sous toutes ses formes et met à l'honneur l'acteur et réalisateur Jean-François Stévenin. Parmi les événements les plus attendus du week-end, l'avant-première de deux téléfilms de Jean-Pierre Mocky, Hitchcock by Mocky, et un hommage à Johnny qui fit ses débuts au cinéma en 1955 comme figurant dans Les Diaboliques d'Henri-Georges Clouzot. Et Sylvain Tesson, invité de Boomerang ce matin, je le disais, chacun de vos livres témoigne d'un goût pour l'ailleurs. Et j'aimerais qu'on vienne aux origines. Quand est-ce qu'il est né, ce goût pour l'ailleurs, chez vous?
Peut-être d'une... Je ne sais pas, si on essaye de... si on décide que tout se joue, comment disait Madame Dolto dans les 6 premières secondes, non, ou dans les 6 premières années?
Quelle tristesse.
Si on décide que tout se joue au début... Puisque vous me posez la question de l'origine de mon penchant pour l'ailleurs, c'est peut-être que j'ai une enfance merveilleuse, mais merveilleusement dorée, traversée par le son de la musique, par l'éducation des arts et des lettres, avec une famille superbe, mais qui peut-être, je risque une espèce d'explication de divan et de comptoir, mais qui peut-être m'enfermait un peu. Alors voilà, le goût de l'ailleurs, c'est ce qu'on imagine être l'autre côté de la cage.
Quels ailleurs est-ce que les livres constituaient quand vous étiez petit?
Aucun, je suis venu à la lecture très tard. Je suis un cancre, moi, profondément. Oui, j'ai un penchant à la paresse, et je suis arrivé à la lecture très tard. après le lycée, par vraiment la voie royale du cancre. C'est-à-dire, quand on n'a pas très envie de lire, mais qu'on a envie de lire des romans qui vous amènent vers l'aventure, quoi. On commence en général classiquement, parce qu'on ne sait pas très bien quoi faire, par Jules Verne. Ce qui n'est pas facile d'ailleurs, parce qu'il y a une âpreté de Jules Verne. Il y a une difficulté. Au bout de la 14e page de description de poisson dans le dans les 20 milieux sous les mers, on commence à se lasser.
Alors à quel moment est-ce que vous vous êtes rêvé en aventurier homérique? Il a bien fallu que ça arrive à un moment.
C'est-à-dire, je me suis mis à faire de l'escalade, et quand je me suis retrouvé avec des camarades pendant des longues heures, tous les jours, sur une paroi, dans l'élément, tourner devant le caillou, avec le soleil, le vide, tout plongé dans l'élément, peut-être ai-je acquis une forme d'appétit pour le païen, pour tout ce qui était élémentaire, tout ce qui procédait de la fusion du monde.
Ça voudrait dire ça, l'adjectif homérique, pour vous? Païen?
Païen, oui. Païen. Homérique, pour moi, je ne sais pas si c'est un adjectif... D'abord, que veut-il dire? Il veut dire énorme, extravagant. C'est ça que le sens aujourd'hui sémantique a fait du mot homérique. Quelque chose d'homérique, c'est quelque chose qui est pantagruélique. Non, je ne crois pas. Moi, je suis d'une constitution assez... Je ne suis pas un ogre. Je suis un ogre de la dévoration de la vie. J'aime rafler, moissonner le plus d'expériences possibles au cours des journées qui passent.
Évidemment, je fais allusion à votre livre Un été avec Homère, qui avant d'être un grand succès en librairie, Sylvain Tesson s'est d'abord présenté sous la forme d'une création radiophonique pour France Inter, diffusée pendant l'été 2017. Qu'est-ce qui vous a immédiatement fasciné, en fait, chez Homère, quand vous l'avez lu?
D'abord, l'écho contemporain. On ouvre Homère et puis on a cette impression de lire un texte qui a été écrit avant-hier. Nous revenons là à l'idée que l'homme n'a pas varié, ou alors que Homère avait une préscience de ce que nous sommes aujourd'hui. La beauté de la langue,
oui.
L'extraordinaire musique composée à la fois de descriptions très tendres, puis de scènes de violence tout à fait insoutenables, ce caractère moderne de l'écriture, très cinématographique, avec les changements de vue, du plus gros plan au plus lointain, et puis cette inclusion permanente dans la narration de la leçon, de l'enseignement, mais qui est distillé non pas comme un docteur qui est à la chaire de l'université, qui est distillé par les actions. Voilà comment il faut se tenir. C'est ça que nous conseille Homère. Voilà ce que nous devrions faire. Voilà comment nous devrions nous tenir devant le problème du temps, devant le problème de l'espace, devant le problème des autres, devant le problème de la mort, devant le problème de l'amour, devant le problème de l'amitié. Voilà ce que je vous dis. Je vous donne quelques indications. Je vous les distille entre deux fracas d'épée, de glaive, et entre deux descriptions de nymphettes.
Ça en fait un modèle d'intelligibilité de la vie?
On peut dire ça, c'est un manuel pour les temps actuels, et c'est la raison pour laquelle, depuis 2500 ans, les lettrés, les clercs, les lecteurs, tout le monde s'intéresse à Homère. Et c'est la raison pour laquelle, probablement, c'est une des références européennes la plus lointaine et qui a le moins varié, malgré les soubresauts culturels, politique et historique de notre continent.
On va parler de départ, de retour ensemble, de désir et d'aventure encore, juste après Brel, tiens, La Quête, 1968, vous êtes sur France Inter avec Sylvain Tesson, vous écoutez Boomerang.
Rêver un impossible rêve, porter chagrin des départs, brûlé d'une possible fièvre, partir où personne ne part, aimer jusqu'à la déchirure, aimer même trop, même mal, tenter sans force et sans armure,
d'atteindre l'inaccessible étoile. Telle est ma quête, suivre l'étoile. Peu m'importe mes chances, peu m'importe le temps ou ma désespérance. Et puis lutter toujours, sans question ni repos, se damner pour l'or d'un mot d'amour. Je ne sais si je serai ce héros, mais mon cœur serait tranquille et les villes s'éclabousseraient de bleu, parce qu'un malheureux brûle encore, bien qu'ayant tout brûlé, brûle encore, même trop, même mal, pour atteindre à s'en écarteler, pour atteindre l'inaccessible étoile.
Boomerang sur France Inter. Augustin Trapenard.
En vrai, on n'attend qu'une seule chose, hein, c'est qu'il se lève et que d'un geste un petit peu bourru, sans un mot, il nous invite à le suivre pour un voyage dont il gardera la destination secrète pour ne pas nous effrayer sans doute. De toute façon, avec lui, les engelures, les ampoules, la faim, les tiques, les attaques de loups, le froid, les maigres repas et même les plus douloureuses courbatures ont le goût de l'aventure. Et pour cela, on le pardonne volontiers avec sa chemise tyrolienne ce matin, sous son blouson en cuir et sa montre de grand voyageur. Sylvain Tesson, invité de Boomerang pour parler d'exploration littéraire, physique aussi, pour nous aider peut-être à prendre de la hauteur. Et j'aimerais, parce que vous le mentionnez tout à l'heure, que l'on reparle un peu d'escalade, pratique si centrale chez vous et qui a failli vous coûter la vie. Qu'est-ce qui, un jour, vous a donné l'envie d'escalader les façades ?
Le fait d'être parisien, j'aimais grimper. Je me suis aperçu que lorsque j'escaladais, je vivais une sorte de réduction de l'existence, dans un intervalle très court, quelques dizaines de mètres, mais pendant l'ascension desquels, on passe par tout le spectre des émotions et des sensations de la vie humaine.
C'est un vertige que vous décrivez.
Oui, c'est un symbole, c'est le symbole de la vie, la grimpe. Vous partez du pied de la paroi, vous arrivez au sommet, et entre les deux, vous avez exploré tout le champ des sentiments que vous pouvez ensuite retrouver au cours d'une vie. La peur, la confiance, l'envie d'abandonner, la rage de reprendre le combat, la joie, l'inquiétude, l'amitié avec le compagnon de cordée. Et bien tout ça, moi, j'ai rencontré en fait l'action, l'incarnation de tout ce que je, péniblement, ce à quoi je méditais, j'ai rencontré l'incarnation dans une action.
Et qui ne va jamais sans risquer de chuter.
C'est-à-dire que comme moi j'étais parisien, quand on est parisien, par définition, on est loin de la montagne. Alors il fallait bien que je trouve des terrains d'application de mon envie de grimper. Donc voilà, dit simplement, comme j'avais pas de montagne, je grimpais au réverbère, puis sur les façades des immeubles. Puis voilà, j'ai fait ça un petit peu. Puis c'était d'acrobatie, quoi, noctambule.
D'ailleurs, vous racontez, dans une très légère oscillation, vous racontez que votre rééducation, en fait, après cette chute il y a 4 ans, et elle consistait, cette rééducation, à monter au sommet de Notre-Dame de Paris, à défaut de l'escalader, ce que vous aviez fait, effectivement, dans le passé. Pourquoi est-ce que vous avez choisi Notre-Dame ?
Parce que j'habite à côté de Notre-Dame, que je passais souvent au pied des tours sans jamais avoir pris le soin de monter au sommet. Les bâtiments de France m'ont donné de manière très amicale une autorisation d'y monter tous les jours pour faire ma rééducation. Et j'ai grimpé les 80 mètres, ce qui pour moi, au moment où je sortais de l'hôpital, était très compliqué. Parce que c'était un Himalaya de monter ces 400 marches en colimaçon. Je tournais autour de la colonne du colimaçon. C'est quelque chose de très symbolique parce qu'on monte tout en restant immobile. C'est ça le principe du colimaçon. Et puis tout d'un coup, on arrive dans la lumière au sommet de la tour sud qui est ouverte à la visite. Et puis Paris est à vos pieds et vous avez l'impression d'avoir conquis quelque chose. C'est ça une rééducation, c'est aller de petits accomplissements, et puis se contenter de quelque chose. Pour une fois, je n'allais pas demander à une distance de milliers de kilomètres de m'apporter quelque chose que j'avais sous mes pas.
Vous revenez d'un voyage, là, aujourd'hui, Sylvain Tesson. Vous revenez d'un voyage et vous nous avez écrit un texte, je crois, dans l'avion, qui nous emmenait vers vous. Ah, vous n'allez rien nous dire, vous allez nous le lire.
Oui.
Ouais.
Je rentre d'un voyage au Moyen-Orient. J'ai voyagé des jours par les plaines et le long des rives de grands fleuves mythologiques. Je reste vague sur mon itinéraire parce que je ne veux pas faire un récit, mais seulement évoquer quelques pensées. J'ai passé des heures sous les ciels de l'Orient, dans des nuits de mystère, et je suis arrivé hier soir. Mais je n'ai pas eu le temps de mettre mes notes en ordre. Tout juste ai-je pu, pendant que l'avion franchissait la Méditerranée, tenter de rassembler les images principales qui, de mes milliers de kilomètres parcourus, se dessinaient à mon esprit. Or, je ne revois que la ruine, le chaos et la détresse. Partout des villes en cendres, des masses affligées, un monde fumant, des plaines de sacs en plastique, des versants couverts de béton, qui devaient avoir été de grandes pentes, parcourues par des troupeaux, des amoncellements de décombres, pour témoigner de cette double opiniâtreté de l'homme, sa fièvre de bâtir partout, sa rage de détruire toujours. Et en rentrant en France, hier soir, en ouvrant à nouveau les journaux, en écoutant les nouvelles du monde, je ne reçois que la même information sur la montée des eaux, la fonte des glaces, enfin tout ce que vous savez, l'embrasement du ciel, la disparition des bêtes, le flétrissement du vivant, le recul des formes de la vie, bref, l'usure du monde. Je l'ai vu là-bas et je l'entends ici. Alors si j'ai écrit ces lignes il y a quelques heures, comme une lettre à vous adressée, mon cher Augustin, parce que vous me l'avez demandé, ce n'est pas pour jouer les Cassandres et pour lancer des plaintes impuissantes sur la dégradation du monde, ni masquer mon manque d'inspiration derrière les actions d'un lamento. Non, c'est parce que j'ai fait une constatation dont je voulais vous faire part. Jamais autant qu'en ces journées où j'ai vu défiler sous mes yeux l'enlaidissement du monde et l'appauvrissement de l'homme, jamais n'ai-je autant entendu parler de l'avenir radieux, des lendemains, des promesses qu'il recelait, des saluts qu'il réservait. Il y a toujours, dans la bouche des plus malheureux, comme de nous autres, Européens épargnés, toujours l'espérance en Dieu, la foi dans la révolution politique, la confiance dans la technique. Et ce rapport m'effraie entre le monstrueux accroissement des affronts faits à la terre et l'abandon des esprits à des promesses messianiques. Comme s'il y avait un lien proportionnel entre la fantastique dégradation du présent, du réel, et le mouvement conjoint d'oubli du passé et de supplication adressée à l'avenir. Or, cette confiance dans les trois avènements que je viens de citer, le Dieu religieux, les promesses politiques et les prouesses techniques, ces trois messianismes, je les tiens pour des écrans de fumée qui nous épargnent de mieux nous conduire, ici et maintenant, de ménager ce dont nous disposons, de conserver ce qui tient encore bon. Ici, on appelle à la révolution. Ici, on aspire à l'au-delà. Ici, on travaille à augmenter la réalité. Foi révolutionnaire, espérance messianique, fétichisme technique. Pendant ce temps, fonte des glaces, mort des bêtes, recul du réel. Les fables, les chimères gagnent du terrain. Le monde, lui, se retire. Eh bien moi, je suis du côté du réel. Des arbres, des sols. Pas des écrans, ni des prophètes, ni des drapeaux rouges. Je ne sens aucune impatience pour ce qui n'est pas encore advenu. Et j'ai l'impression que la révolution politique est parfois le mouvement qui transforme une situation qui aurait pu être meilleure en une situation qui ne peut pas être pire. Et j'ai l'impression que Dieu pourrait se résoudre à la manifestation de tout ce qui vit et chatoie là devant nos yeux. Et j'ai l'impression que les spéculations sur le miracle de l'intelligence artificielle sont la figuration d'un cauchemar. Bref, j'aime la magie du réel, je déplore que nous nous accommodions des salissures que l'humanité laisse derrière elle en nous réfugiant dans les espérances artificielles. À part cela, tout va très bien. Je lis une merveilleux livre, je rencontre des personnages très sympathiques comme vous, Augustin, et je suis désolé de vous avoir infligé ces propos de comptoir, ce qui est entre nous une insulte pour les comptoirs, parce qu'il se passe parfois des choses très belles sur les comptoirs, on entend des mots merveilleux, et comme celui moi, que j'ai entendu il n'y a pas très longtemps avec des Russes qui disaient, je parle sous le contrôle des lois de modération et du CSA et de la loi Evin, ce mot merveilleux de comptoir, alcool le matin, liberté pour la journée.
Comment ne pas dire, confier aux auditeurs que ce texte de votre écriture bleue, si belle, vous l'avez écrit dans votre livre de poche, qui est un livre de Milan Kundera, Les Testaments trahis. Merci infiniment, Sylvain Tesson, d'être venu faire un tour dans cette émission. Je rappelle qu'une très légère oscillation vient de paraître chez Pocket, que votre œuvre tout entière est publiée aux éditions de l'Équateur ainsi que chez Gallimard, et que votre livre Un été avec Homer, en coédition avec France Inter, fait toujours un carton. Merci à vous et merci à ceux qui font cartonner cette émission. Lola Costantini, Valentine Chedebois, Léonard Biot, Pierre Martinerie, Cyril Marchand et Jean-Baptiste Audibert. À lundi, les amis, il est déjà en train de partir pour une autre aventure. Il a mis sa casquette tout de suite. Ensuite, les médias, Sonia De Villers, juste après ça. I've been feeling kinda cooped up, I'm trying to get some fresh air. Hey, well, you got the roof out, you know it never rains here. Hey, you ain't got a flash when you're taking your picture. You ain't got to draw no extra retention. Paparazzi wanna shoot ya, niggas dying for less out here. I've been in my bag anyway, trying to throw a bag in the safe. You can turn church.
For the cameras,
right?
Fuck, I'm doing fish bowling.
Side.
100,000 on the passenger, bitch. I'm Kendrick Lamar. Respect me from afar. I was made in this image. You call me a god. Everybody in attendance. I'm about to perform. Everybody get offended by the shit I got on. Like, can you buy that nigga 900 horse? Can you drive that nigga a G5? Can you fly that nigga? I need 10 so I can look at the snakes and poses.
I need 10
'cause bomb head is non-disclosure.
I need 10
so I can live with a piece.
I need 10 tints. Anderson .Paak et Kendrick Lamar sur France Inter et tout de suite les médias avec Sonia De Villers.
À lundi.
À lundi, ma chère Sonia.
Salut.